Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frontaine Chronicles, épisode 9, premier épisode de l'année. Bonjour Denis, comment vas-tu ?
Bonjour Benjamin, premier épisode de l'année 2022 et c'est vrai, extraordinaire. On espère qu'on va en faire encore tout au long de l'année et puis les années à suivre, hein, parce que c'est vraiment sympa en tout cas.
Et petit spoiler, rendez-vous en fin d'émission pour vous annoncer le programme de l'épisode spécial qui arrivera le mois prochain, l'épisode 10. Qu'est-ce qu'on a comme news aujourd'hui avant d'entamer notre sujet principal ? Un peu de Vue.js, je crois, Denis. Hein.
Ouais, un peu de Vue.js. Alors, il y a des choses qui ont bougé au niveau Vue.js. Alors, si vous suivez déjà ce qui se passe au niveau Vue.js, vous êtes peut-être déjà au courant. On a un remplacement au niveau du framework, notamment au niveau des recommandations par défaut. Et notamment, on a Vue.x qui va être remplacé par Pinya, donc qui est une forme simplifiée de gestion d'état. Donc on n'a pas tout le modèle Redux, on a une version plus simplifiée et qui se combine très bien avec l'API Composition. Donc voilà, un choix stratégique et toujours vers la simplicité, quelque chose qui est souhaité au niveau Vue.
Une des conférences du DevFest Nantes 2021 justement en parle. Alors c'était pas encore officiel au niveau du remplacement de Vue.x par Pinya, mais il y avait quand même déjà quelques exemples de code et le logo est sympa aussi.
Yes, et comme Evan New s'ennuie jamais, il a fait un petit framework de test qui s'appelle Vitest, qui est basé sur à peu près les mêmes choses que pour Vite. Du coup, des choses aussi à suivre là-dessus parce que ça va vous permettre peut-être de dire au revoir à Jest et tester de nouvelles choses.
Ah oui, carrément, remplacer Jest derrière.
Ouais, voilà, c'est ça. Et les performances, en tout cas, sur les exemples de code sont assez impressionnants. Donc, j'ai l'impression que c'est sur vraiment le démarrage, en fait. Mm. Parce que même si on a des tests qui durent 10 millisecondes parce que c'est 3 instructions, on a toujours une mécanique de démarrage qui fait que l'exécution de notre test prend 4 à 5 secondes, mais exactement, il nous dit que le test en lui-même a duré 10 millisecondes.
C'est ça.
Et ben là, du coup, pour un test qui dure 10 millisecondes, c'est même pas 0,1 seconde, en fait. Donc c'est assez bluffant.
Ah oui, d'accord. OK. Contexte d'exécution, du coup, ultra rapide.
Exactement. Okay. Donc là, c'est encore en phase d'ébauche et tout ça, mais un truc vraiment sympa à surveiller. Ben, moi, en tout cas, je vais me renseigner pour potentiellement l'adopter au moins sur mes projets perso et puis
ailleurs. C'est vrai que Vite est quand même assez bluffant pour avoir essayé sur un projet Vue 3. Alors j'imagine pas si on est dans la même lignée avec les tests justement entièrement en phase hein, sur ton engouement justement sur Vite test du coup. Et un peu news Angular je crois hein. Donc il y a
alors, en fait,
version 13 qui est sortie il y a déjà quelques mois.
Ouais voilà et en fait pas forcément des news, mais quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai été vraiment surpris. Je l'ai découvert hier, hein, pour être précis. On a une partie génération serveur avec Angular Universal, ouais. Donc un dépôt qui est disponible et que j'utilise quasiment tous les jours dans le cadre professionnel. Mm-hmm. Et en fait, on avait une sous-partie qui s'appelait pré-render. Et au début, moi, pré-render, je me suis dit, bon, OK, c'est de l'optimisation pour le serveur, pour l'alléger, etc. Donc, plutôt des assets qu'on verrait au niveau serveur pour lui faciliter la vie. Et en fait, non, pré-render, il s'agit réellement de génération statique. Donc, on peut faire de la génération statique avec Angular. Donc, c'est-à-dire que si on a notre application Angular, on injecte Angular Universal, on met les 2-3 choses qui vont bien pour faire du SSR, et après, en fait, on va pouvoir run des commandes avec le CLI, des commandes de pré-render, et en fait, ça va nous faire nos pages directement. Et donc, du coup, c'est pas du tout des assets qu'on va avoir côté serveur, mais des assets au niveau browser. Et donc, on va pouvoir directement uploader. On va avoir des index.html qui contiennent toutes nos infos. Donc, j'ai été vraiment surpris de découvrir ça.
D'accord, ok. J'en avais pas du tout entendu parler jusqu'à là, parce qu'effectivement, quand on parlait de génération statique, même dans les précédents épisodes de Frontend Chronicles, on était très Next, très Gatsby, très voilà.
Next aussi, ouais. Mais Next. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pensait. Moi, je pensais en tout cas que Angular n'était pas du tout prêt. Et en fait, si, ça existe et c'est utilisable.
Ok, d'accord. Je pense que ça pourrait être l'objet d'un prochain Frontend Chronicles, de pouvoir vous le faire découvrir si vous le découvrez en même temps que Denis presque et moi du coup aujourd'hui. Mais revenons, comme d'habitude, à notre sujet principal, qui est aujourd'hui le support du CSS en 2022. Grand sujet, parce que le CSS, quand même, c'est vraiment le talon d'Achille de l'intégration de sites web.
Ah bah moi je le trouve, moi c'est ma bête noire. Bah moi c'est une réflexion que je me fais souvent, mais c'est le seul endroit où on a le droit d'avoir des magic numbers et puis c'est OK quoi.
Effectivement.
Bon, maintenant il y a des choses beaucoup mieux.
Essaye
notamment
de mettre des constantes quand même un peu plus, voilà, pour pouvoir gérer des thèmes, des choses comme ça quoi.
Mais nos marges, on va potentiellement des fois, en fonction de la maquette, rajouter un petit décalage de 2-3 pixels, etc. Et c'est des choses qui plus tard, je trouve, sont assez impactantes en termes de maintenance, etc. Et je trouve que c'est très très vite verbeux pour faire peu de choses quoi.
Bah c'est vrai que même déjà en ayant un design system, il m'est arrivé de voir des magic numbers alors qu'on a des super variables qui font le taf en fait, qui sont en correspondance avec les maquettes. Alors souvent c'est parce qu'il y a du legacy dans le code et qu'on n'est pas repassé dessus. Mais effectivement, je pense que ça peut parler un peu à tout le monde. Et on veut surtout, en CSS, éviter de faire n'importe quoi et faire les choses bien. Et du coup, bah, jusqu'à maintenant, jusqu'à très récemment, là on va en parler, il n'y a plus de support IE.
Une étape assez marquante, hein, on y est dedans, hein, parce que les frameworks arrêtent tout simplement le support. On a aussi Google Search, aujourd'hui, qui fournit une page, un fallback, en fait, une autre page pour IE.
Okay.
Et du coup, bah maintenant, on a déjà même Google fait une scission entre du IE, sur lequel ils vont fournir des pages legacy, sûrement, et le reste, en fait. Même si, bon, IE, on aime bien à chaque fois taper dessus, l'inconvénient d'IE par rapport aux navigateurs modernes, c'est que les navigateurs modernes, en fait, ils font de l'auto-update maintenant.
Oui.
Et du coup, il n'y a pas du tout de gestion au niveau de l'OS. Il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire que ton navigateur, il va se mettre naturellement à jour et tu n'as pas de blocage. Et même si tu es dans une infrastructure d'entreprise, etc., où tu n'as pas les droits administrateurs sur ton ordinateur, bah, ton navigateur va quand même se mettre à jour.
IE 11 sera du coup tout simplement désactivé de Windows après le 15 juin 2022. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que vous voudrez lancer IE, ça sera dirigé vers Edge.
Ouais, voilà, c'est ça. Il me semble que c'est déjà désactivé sur Windows 11. Donc si vous installez la version 11 de Windows, vous n'avez plus IE.
Si tu avais des features modernes à nous recommander, Denis. Modernes, j'entends 2020, 2021, 2022, ou même un peu
même
plus
avant,
ancien.
Ouais.
Mais,
plus... Je pense faire le tour des features qui sont sympathiques et qui sont pas forcément encore dans les réflexes de tout le monde. Évidemment, CSS Grid, sorti en 2017, incontournable aujourd'hui, parce que ben autant on n'a pas forcément la dernière feature de CSS qui est sortie l'année dernière sur nos navigateurs, autant CSS Grid, le support commence à être vraiment très très bon, et donc c'est très appréciable.
Et ça vient avec son pote, le Flex.
C'est très important de comprendre que c'est complémentaire et que ça ne remplace pas. Mmh. Le Flex, c'est plus une gestion en une dimension, et la grille, par contre, c'est en deux dimensions. Donc, suivant le problème qu'on a à résoudre, eh ben, on va utiliser plutôt grid ou Flex.
Alors, c'est vrai que dans certains cas, les deux peuvent convenir, c'est-à-dire qu'on peut faire exactement la même chose en Flex et en grid, et parfois, vous allez peut-être même préférer l'un plutôt que l'autre, mais effectivement, tu as une dimension layout. Hein. Une grid, vous pensez vraiment, comme tu le disais, en deux dimensions votre page ou votre élément. On a aussi des variables CSS. Hein. Ça commence vraiment à être poussé même sur des projets. Aujourd'hui, je le vois. Pourquoi utiliser des variables CSS aujourd'hui?
Pourquoi utiliser des variables CSS? Bah, la réponse, elle est toute simple. Hein. Justement, on en a parlé au tout début, les magic numbers. Et puis même autrement, les thèmes. Parce qu'aujourd'hui, si vous vouliez variabiliser en fait, votre contenu CSS, vous êtes obligé de passer par un préprocesseur.
Mm-hmm.
Ou alors, autrement, des post-processeurs comme Tailwind ou des choses comme ça. Mais vous êtes obligé d'utiliser une solution en plus.
D'accord. Du coup, VS SAS, ça fait longtemps qu'on a des variables à l'intérieur de SAS. Est-ce qu'on continuerait à utiliser SAS ou est-ce que vraiment CSS aujourd'hui vise à vraiment être utilisé en tant que tel, sans justement préprocesseur?
On en reparlera, je pense, un peu après,
okay,
parce que là, c'est des choses qui changent nos habitudes.
Okay.
Mais on va plutôt faire le tour des features.
Ouais,
et puis,
carrément.
Et une autre feature que tu connais peut-être, Benjamin, qui est le pseudo-sélecteur route, donc deux points route,
okay,
qui permet de sélectionner vraiment la racine de notre document. Donc c'est encore un élément au-dessus de HTML,
ah ouais, okay,
en sélecteur. Et donc du coup, bah, on en parlait juste avant avec les variables CSS, bah, c'est un bon endroit pour déclarer nos variables globales.
Moi, ce que je vois aussi dans un contexte Angular, c'est beaucoup le pseudo-sélecteur de points host.
Oui, ok.
Voilà.
Alors là, du coup, non, ça sera pas du tout, ça sera pas la même gestion.
Oui, bien
là,
sûr,
c'est ouais. vraiment la racine du document, mais c'est le même esprit. Ouais.
Ça permet justement, comme tu disais, donc déclarer vraiment la racine totalement de ta page, du coup.
Voilà, c'est ça.
Ok, d'accord.
Et sinon, justement, on parle de features avec du support plus ou moins présent. En fait, il y a maintenant une annotation qui permet de savoir, donc c'est @support, qui permet d'écrire du CSS suivant si la feature est supportée ou pas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. Donc typiquement, si le navigateur supporte Display Grid, eh ben, je fournis une grille, et sinon, je fournis un Flexbox un peu dégradé, et des choses comme ça. Donc ça, c'est des trucs vraiment intéressants. Parce que, bon, là, pour le display grid, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis, mais on peut avoir d'autres cas un peu tordus où on est bien content de fournir un support et de manière propre. C'est-à-dire, c'est pas des instructions qui vont surcharger en fonction de qu'est-ce que le navigateur gère. Mmh, parce que ouais. ça, on a déjà vu. Hein.
Et qui, eux, notamment. Mmh, ouais. Ouais. Ok, on pouvait cibler des fonctions d'une certaine version d'IE. C'était un commentaire HTML.
Oui, c'est ça, ouais.
Quasiment dans le header.
Okay. Ouais, donc maintenant c'est ouais. un peu plus sexy en tout cas pour définir.
Bah ça ressemble plus à un hack en fait, tout simplement. C'était voilà. un hack en fait de mettre un commentaire pour cibler une version d'IE. Les flex gaps. Alors du coup effectivement, là moi ça me parle. Une des forces de Grid notamment, c'est de mettre des gaps entre les rows et les colonnes.
C'est une feature quand c'est arrivé, moi j'étais surpris, je me disais mais ça n'existe pas déjà. Enfin, je veux dire c'est ouais. tellement basique, c'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre d'éléments. Et en fait, on est à chaque fois en train de se batailler avec les marges ou des choses comme ça quand on veut juste dire qu'il y a un espace entre tous les éléments.
Alors, on bidouille pas.
Voilà.
Et là, concrètement, on décrit, moi, c'est ce que j'adore dans la norme CSS Grid, hein, c'est qu'on décrit vraiment, ah voilà, ok, entre mes colonnes et mes rows, je veux tant d'espace.
Voilà, ouais.
Il n'y a pas d'effet de bord, c'est vraiment ce que ça doit faire. Mais ça n'existait pas en flex.
Non, et ça a été rajouté bien après, ouais.
Et enfin, tu voulais nous parler aussi de scroll snap.
Ouais, c'est une petite feature qui, en fait, c'est le genre de feature qu'on va pas utiliser la majorité du temps. Par contre, dès qu'on en a besoin, c'est trop bien. C'est pour verrouiller le scroll en fait sur une partie de l'écran.
Ah oui.
Et du coup, ça nous évite de trop décomposer notre HTML et avec les overflows un peu à gauche à droite, comment on va structurer sa page. Là, je vous recommande plutôt de lire la documentation parce que c'est ça reste un usage assez avancé, quoi. C'est pas hyper intuitif, mais c'est très pratique en tout cas. Ça évite de tout bousculer dans notre HTML, quoi.
Ok. Alors, qui dit feature moderne dit qu'on a un peu de legacy aussi en CSS, même beaucoup.
Beaucoup trop, ouais.
Et des anciennes façons de faire qui fonctionnent toujours aujourd'hui, mais qui sont pas très explicites. Hein. Je vais pas parler de float left ou de float right qui est à bannir évidemment aujourd'hui, par exemple. Est-ce que tu penses qu'à terme, les variables SAS cesseront d'être utilisées et d'exister au profit des variables CSS ?
Je ne sais pas si les variables SAS vont disparaître, parce que en fait, elles permettent de faire d'autres choses en plus, notamment stocker des résultats de calcul ou de combiner encore plus d'éléments qui ne sont pas possibles en CSS. Par contre, oui, peut-être pour tout ce qui est couleur, etc., etc., je pense que les variables SAS vont être de moins en moins utilisées au profit des variables CSS. Une règle toute bête, si on veut changer un thème de page, donc thème clair, thème sombre par exemple, bah, si on le fait avec SAS, et bah, en fait, on va avoir des fichiers CSS qui contiennent notre thème clair, notre thème sombre, et en fait on va le changer à la volée, le thème de la page. Et si on utilise des variables CSS, bah, en fait, on a juste à les remplacer. Donc je pense que rien que pour cette facilité-là, je pense que les variables CSS vont prendre le pas
le dessus, oui.
Ouais, au moins sur la majorité des usages, et variables SAS, ce sera plus que des cas à la marge.
De la même manière que TypeScript, quand il transpile, se met à jour sur les implémentations du standard, je pense que oui, effectivement, les variables CSS vont prendre de plus en plus d'ampleur par rapport aux variables SAS, parce que SAS avait été créé aussi à la base pour combler pas mal de lacunes de CSS, y compris des variables.
Exactement. Impossible de faire des variables. Oui, c'est ça. Et le jour où il y a du nesting dans CSS, je pense qu'il y a plein de projets qui peuvent tourner sans SAS.
Il y a aussi un des avantages, hein, en dehors des variables au niveau du SAS, c'est que il y a aussi la puissance des mixins, le fait de pouvoir faire des fonctions qui vont permettre notamment par exemple de générer des pans entiers de code ou des pans entiers en fonction de conditions. Ça n'existe pas du tout en CSS. Et tant que en CSS on pourra pas le faire, si un jour on peut le faire, il y aura toujours cette force-là au niveau des préprocesseurs. Il y a aussi un truc qui m'a toujours chagriné en CSS, c'est comment centrer des éléments. Ça, c'est vraiment infernal.
C'est la plaie. Hein.
C'est la plaie. Alors, autant, on va dire, horizontalement, c'est toujours assez simple. Hein. Par contre, centrer verticalement, ça a toujours été une plaie. On a toujours essayé de faire du position absolue, du top à 50%, du left à 50%, et derrière, lui attribuer une transformation de ces moins 50% en top et en left. Qu'est-ce que toi t'en penses, Denis, justement, de centrer les éléments? Comment aujourd'hui on pourrait le faire simplement avec les choses qu'on a vues précédemment?
Du coup, moi je pense que je le ferais en CSS grid avec un élément parent et puis un élément enfant. Et l'élément enfant à centrer, je le mettrais en justify items center et align items center. Voilà. Et au moins, en fait, on s'évite plein de nœuds à la tête, quoi.
On peut également le faire en flex, avec quasiment les mêmes instructions. Là, vous pouvez aller regarder,
près, ouais.
Pouvez regarder la doc, mais c'est pareil en fait. On va pouvoir très simplement, avec du display flex ou du display grid, centrer un élément. Et surtout, c'est très important, c'est que c'est explicitement ce qu'on souhaite. On n'est pas en train de faire du hacking en CSS pour dire, mets-toi en position absolue, tu te mets à 50% en top, et on va voir ce que ça donne, quoi. Tu voulais aussi parler, encore une fois, de CSS grid, puisqu'il y a un élément puissant que tu peux faire maintenant.
C'est la superposition d'éléments. Parce que c'est, moi, je trouve que c'est toujours une question qui n'est pas évidente, en fait. Se dire, j'ai une div et j'en veux une autre par-dessus. Et sans faire des marges négatives, sans faire des positions absolues, sans faire des floats, c'est pas une question si simple que ça à répondre. Et aujourd'hui, pour le faire proprement, moi, je trouve la méthode la plus propre, en fait, c'est de faire encore une fois une CSS grid. Et de forcer la position des blocs dans la grille. Voilà. Donc on va dire que le premier bloc, il est en haut à gauche, et on va dire que le deuxième bloc, au lieu d'être en haut à gauche, mais légèrement décalé sur la droite, en fait, il est en haut à gauche, à la même place que le premier. Et je pense qu'après, avec les z-index, on arrive à se retrouver pour qu'il y en ait bien un au-dessus de l'autre. Mais moi, c'était l'exemple que je trouvais le plus convaincant. Alors après, est-ce que c'est une habitude à prendre? Et du coup, si vous devez superposer des éléments, il faut faire ça tout le temps. C'est pas aussi évident que ça, mais en tout cas, je trouvais que la méthode, elle était assez clean, en fait, compte tenu des résultats qu'on cherche à avoir.
Maintenant qu'on est débarrassé d'IE, c'est vrai qu'on a aussi une forte part de marché pour ce qui est Chrome et Chromium. Avec notamment une nouvelle qui avait fait un gros boom dans les internets, avec le fait que Edge abandonne son moteur JavaScript Chakra Core pour passer sur le même moteur de rendu que Chrome. Déjà que Chrome a une énorme part de marché aujourd'hui sur le web, le seul gros challenger en face, c'est Firefox, et plus ça va et plus il perd aussi des parts de marché. Est-ce qu'on va pas se retrouver face à un nouvel IE? Un nouveau navigateur qui, justement, a énormément de parts du marché, qu'il dicte finalement les standards.
En fait, moi, je verrais plutôt le nouvel IE comme plutôt une forme de plaie, quoi, un nouveau frein, en fait, à ce qu'on peut faire. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'était plutôt... étonnamment, en fait, c'est pas Firefox qui est en retard. Je le trouve assez à jour par rapport à ce qui est fait côté Chromium. Mais c'est peut-être plutôt Safari, en fait, qui, sur 2-3 features, peut accuser du retard. C'est-à-dire que globalement, vous n'allez pas le voir. Et puis, en fait, sur 2-3 choses, vous allez vous faire coincer. Moi, j'ai un exemple qui est tout simple. On a parlé tout à l'heure des Flex Gap, donc une feature qui a été rajoutée dans Flex, et qui fait aussi partie du standard Grid. Et en fait, c'est quelque chose qui a été ajouté en avril 2021 sur Safari. Et alors qu'en fait, ailleurs, ça a été ajouté début 2020. Et chose toute bête, on le voit pas tout de suite, etc. Et ça dépend de la dernière version de Safari. Et puis, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne au niveau iOS et macOS, mais il faut avoir les dernières versions de iOS ou de macOS pour profiter des dernières versions de Safari. Moi, je me suis retrouvé coincé. J'avais fait un dev avec FlexGap, et puis Je l'ai découvert à mes dépens que, en fait, ça marchait pas sur Safari.
Alors, le moteur de rendu de Safari, c'est WebKit. Pour information, il est utilisé dans Conqueror, KHTML, Conqueror. C'est sur les environnements KDE, je crois, sur Linux.
Oui, ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça, oui.
Notamment utilisé dans le bureau, navigateur de bureau de GNOME, qui repose entièrement sur WebKit. Android, également, utilise WebKit. Et pas mal de petits navigateurs web, donc moins gros que Safari. Ils ont dû avoir aussi ces lacunes, parce que c'est des intégrations dans le moteur de rendu, plutôt que dans Safari en tant que tel. Mais bon, c'est Safari qui est le plus connu, donc voilà, c'était pour la précision. Et d'un point de vue peut-être un peu plus national, est-ce qu'il y a certains pays qui vont avoir des navigateurs qu'on n'a pas, nous ?
Oui, bah, je pense particulièrement à la Chine, où les utilisateurs n'utilisent pas du tout les mêmes navigateurs que nous. Et notamment, ils utilisent majoritairement des navigateurs qui sont basés sur WeChat, donc c'est WeChat Browser, ou sur QQ Browser. Voilà. Donc c'est des navigateurs qui sont plus intégrés dans leur écosystème, et ils ont aussi leur moteur de recherche, etc. Donc en fait, WeChat, voilà, c'est très utilisé en Chine, et en fait, c'est assez compliqué en fait de travailler sur ces plateformes-là. Pourquoi ? Parce que en fait, le support, on le connaît très peu. Et la documentation, voilà, c'est très compliqué de la trouver. Il y en a potentiellement en chinois, en anglais, il y en a pas, donc en français, oublions.
Et donc du coup, c'est le vrai problème que tu as toi en CSS, à la fois le retard que peut engendrer Safari. Du coup, c'est aussi un autre impact avec les navigateurs qui sont uniquement nationaux, puisque effectivement, la population chinoise, ça se compte en milliards.
Voilà, exactement. Oui.
Donc c'est des milliards potentiellement de clients pour justement développer ces applications. Alors, pour en revenir vite fait sur ma question initiale qui était est-ce que le nouveau IE, c'est pas plutôt Chrome ? C'est qu'en fait, je prends l'inverse de ce que tu as dit, c'est que le fait que Chrome soit majoritaire sur Chrome et Chromium, hein, le moteur de rendu, tout ça, soit majoritaire sur les parcs, sur le parc informatique, on revient au problème initial qui était IE, qui était installé par défaut sur Windows et qui n'avait pas spécialement d'autres navigateurs. Et que du coup, IE faisait un peu tout ce qu'il voulait, puisque le standard était plus ou moins mis en place, et du coup, il implémentait ce qu'il voulait. Et là, aujourd'hui, est-ce que Chrome va pas imposer ça au fur et à mesure ? Parce que là, effectivement, Chrome est quand même plutôt bon dans les standards web, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci à se faire, mais pourquoi demain, peut-être que lui interdira plein de pans d'applications possibles, hein ? Donc c'est pour ça que moi, je veux plus le nouvel IE, peut-être Chrome à l'avenir, je sais pas. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Et du coup, en 2022, est-ce que tu as des features à recommander, à voir, qui sont peut-être pas encore trop supportées sur les navigateurs ?
Il y a des choses, je ne sais pas si elles seront implémentées un jour sur les différents navigateurs. Parce qu'en fait, ce qu'on va chercher, c'est vraiment le cross-platform, quoi. Parce que nous, aujourd'hui, ça nous fait vraiment beaucoup de boulot de faire du spécifique, puis d'adapter, faire des rustines, des modes dégradés, etc. Ça peut être des choses qui sont assez lourdes. Et donc, on va chercher des choses peut-être plus simples. Tant pis, on perd un peu de la puissance de certaines features, mais au moins, on s'enlève quand même beaucoup de contraintes, quoi. Notamment, moi, j'avais une propriété CSS qui s'appelle Aspect Ratio, qui en fait se base, il me semble qu'il y a, des équivalences quand on gère des images et des choses comme ça. Là, on va pouvoir donner à un bloc le ratio de proportion qu'on veut. Donc si on veut un bloc 4 tiers, 16 neuvièmes, etc.
D'accord.
Et donc là, on s'affranchit de la notion d'image, on a juste besoin de spécifier le ratio qu'on veut avoir entre hauteur et largeur.
Ok. Il y a aussi un autre aspect intéressant qui est déjà disponible, c'est le fait de mettre le mode de chargement de ces images en lazy, qui vous permet justement d'attendre que la ressource soit affichée à l'écran au niveau balise HTML pour que lui puisse charger et pas charger inutilement une ressource qui ne sera jamais affichée. Et là, il y a une propriété du même acabit dont tu voulais nous parler, Denis, qui s'appelle la propriété Content Visibility. Et là, j'ai l'impression d'être un peu plus global que pour les images.
Et en fait, c'est un peu l'équivalent de l'instruction lazy, donc qu'on appose au niveau du HTML. Là, ici, c'est une instruction qu'on va mettre au niveau du CSS. Et du coup, on va mettre une propriété Content Visibility qui a trois modes, donc mode par défaut, mode caché ou mode automatique. Et le mode automatique, en fait, il va automatiquement faire du lazy loading, en fait, sur notre contenu. Donc, si c'est des images ou des choses comme ça, ça peut être vraiment intéressant. Si on a mis un background URL en visibilité automatique, et ben, en fait, ça va faire du lazy loading. Donc, ça, c'est des trucs vraiment cool. Okay. Chose qu'on pouvait pas faire avant.
Et enfin, une petite feature qui tenait à cœur, parce qu'on a entendu dans ce podcast que tu étais très enthousiaste sur les grids, et là on a l'arrivée de la subgrid.
Alors subgrid, je ne sais pas si ça arrivera un jour, malheureusement, parce qu'aujourd'hui c'est une feature qui est implémentée que dans Firefox. Firefox, ils aiment beaucoup cette feature-là. Je n'ai pas été voir au niveau du standard CSS où est-ce que ça en était, parce que je suppose qu'ils ont un système de proposition, de revue, etc. Donc, je pourrais pas vous dire où est-ce que ça en est. Par contre, c'est quelque chose qui est vraiment, moi, m'intéresserait beaucoup parce que, en fait, on a des petites astuces pour éviter, des choses indésirables. Typiquement, si on met une grille dans une grille, en fait, on a des proportions qui vont bouger dans la grille à l'intérieur.
Oui.
Et du coup, on est obligé de se prémunir de ça en faisant d'autres choses. Et c'est des phénomènes qui sont assez dommages parce que, en fait, le subgrid en lui-même, c'est pas tant lui qui est important, mais c'est que ça permettrait de résoudre un peu ces problèmes-là. Parce que ces problèmes-là, en fait, pour les novices, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. On met une grille dans une grille, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi.
Et
là, en fait, ça devient une plaie à gérer parce qu'en fait, nos éléments, à l'intérieur de la grille, ils vont devenir flexibles et en fait, ils vont faire n'importe quoi. Donc,
okay.
Donc ça, c'est une feature à surveiller. Le jour où ça arrive, en fait, ça nous enlèvera beaucoup de soucis. C'est plus ça.
Effectivement, j'en ai entendu parler, moi, dès que j'ai découvert Grid, avec le subgrid, c'était déjà des propositions qui étaient faites. Ça remonte à quelques années. Mais effectivement, si c'est encore sur le tapis, espérons que justement, ça avance de ce côté-là. Moi, j'ai une recommandation à vous faire. J'ai acheté un livre il y a 2 ans et demi à peu près, qui s'appelait CSS3 Grid Layout. Vous allez enfin aimer le CSS, et c'est un livre qui a été écrit par Raphaël Goetter. C'est une personne qu'on avait été voir, Denis, en Coding Lab, au DevFest.
Ah, c'était lui ?
C'était lui, qui justement nous avait fait un Coding Lab sur le CSS Grid. Et ce monsieur,
incroyable.
Voilà, a sorti un livre, donc je le mettrai dans les notes de l'émission, où effectivement, on part de la base de pourquoi Grid a été créé et comment bien l'utiliser derrière. Donc je pense que c'est un bon petit livre à avoir. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement de CSS en 2022 ?
Peut-être quelques pilules qui sont un peu dures à avaler, même si on fait du progrès... beaucoup de progrès là-dessus. Malheureusement, je pense qu'il faut encore modifier son HTML pour adapter son visuel.
Je suis d'accord.
Et ça, je trouve, moi, c'est une pilule qui est très dure à avaler parce que c'est la promesse initiale. Le HTML, c'est la structure. Le CSS, c'est la mise en forme. Et il n'y a pas de raison que notre mise en forme demande en tout cas de changer notre structure.
Non, c'est sûr.
Voilà. Donc là, c'est vraiment une notion de paradigme. C'est un peu des tocs, évidemment. Mais...
Même si Flex et Grid viennent quand même nous aider, parce que Grid, quand on peut déclarer des zones nommées pour dire, tiens, toi, tu vas aller te mettre en haut à droite, alors qu'en fait, dans le HTML, il est en haut à gauche, c'est quand même fantastique.
De oui, pouvoir vraiment ça, bien sûr, ça,
le
c'est
décrire,
mieux.
Voilà. Mais c'est encore trop peu, comme je le disais tout à l'heure, c'est encore trop peu utilisé, le CSS Grid. Et même en Flex, on peut quand même, juste avec une instruction, changer l'ordre des éléments sur la page, mais c'est encore trop peu utilisé également.
Et en fait, moi, ça me fait penser à une phrase de Richard Feynman. Bon, c'est de la mécanique quantique, mais quand il dit vraiment que personne ne comprend la mécanique quantique, j'ai presque envie de dire pareil du CSS, en fait. Personne connaît vraiment le CSS, quoi.
C'est très difficile de faire du CSS maintenable et du coup de complètement dégommer tes efforts. C'est-à-dire que tu t'es appliqué à faire tes composants bien, pour qu'il s'imbrique parfaitement dans ton CSS, et quelqu'un qui arrive qui n'a pas la connaissance de ton code ni du design system va venir ajouter des choses et surcharger tes variables, et ça va tout casser.
Et même toi, en fait, parce que tu reviens dessus 6 mois après, et en fait tu vas bouger des propriétés par quelque chose qui te semble logique, et en fait c'est des petits ajustements à gauche à droite, mais c'est vraiment... tu bouges un truc, en fait c'est un peu le même phénomène que l'image dans les documents Word, quoi. c'est on déplace une image et puis il y a toute la page qui change. Et ben en fait là c'est pareil, mais les conséquences on les voit pas tout de suite, mais voilà, en rajoutant juste un petit padding sur notre composant bouton, et ben en fait on se rend compte que à plein d'endroits on est obligé d'ajuster les marges, sinon il y a plus rien qui va, quoi. Et donc du coup c'est dans ce sens-là où en fait c'est on peut faire du CSS simple, etc., mais très vite en fait on est c'est forcément verbeux parce qu'on est obligé d'ajuster sans arrêt, on corrige à un endroit et donc faut réaligner à un autre, etc., etc.
Et du coup dans 6 mois en fait quand tu regardes le guide blame, l'autre c'est toi.
Exactement.
C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Un petit spoiler sur le prochain épisode. Ça sera le 10e de Frontend Chronicles et ça sera un épisode anniversaire.
Donc ça fera un an voilà. Que le premier épisode de Frontend Chronicles est sorti.
On a voulu marquer le coup et cet épisode se fera avec 2 invités. Extraordinaire, et je pense qu'on ne sera pas à 30 minutes comme on le fait habituellement. Et le sujet, ça sera sur qu'est-ce qu'un dev front-end en 2022. On vous retrouve comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast et on vous dit à la prochaine. Salut !